بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس رابوش un petit peu inshallah. On n'a pas besoin de parler trop fort. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la possibilité en ce mardi soir, oui, ce mardi soir, donc, de reprendre nos programmes extrêmement importants mais extrêmement complexes en même temps concernant les signes de la fin du monde. Et on avait démarré le programme il y a un an et demi ou deux ans à peu près en étudiant point par point les petits signes du Qiyam. On avait expliqué que Allah Azza wa Jal a créé ce dunya, Allah Ta'ala a créé ce monde, et chaque habitant, chaque créature qu'il y a de ce monde est voué à disparaître. Et ce qui distingue la race humaine, c'est qu'Allah Azza wa Jal a créé l'homme uniquement pour l'adoration d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il y a un amana, il y a une responsabilité sur chaque être humain, sur chacun d'entre nous. Et parmi les êtres humains, ceux qui sont vivants à notre époque, c'est en intégralité la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on peut diviser en deux catégories, la umma tud-da'wa, umma tul-istijaba. Il y a ceux qui font partie de la umma et qui ont accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire nous les musulmans, ahlu la ilaha illallah. Et puis il y a les personnes qui font partie de cette umma mais qui n'ont pas accepté la ilaha illallah pour une raison qu'Allah seul le sait, mais c'est les gens vers lesquels la da'wa doit être donnée. C'est la responsabilité de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui accepte la ilaha illallah d'aller vers ces gens et de leur faire comprendre la réalité de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et donc Allah Azza wa Jal a organisé ce monde avec une sagesse qu'Allah seul sait. Et depuis l'époque de Adam alayhi salam, le premier homme, et avant l'époque de Adam alayhi salam, lorsqu'il n'y avait que des djinns qui peuplaient ce monde, Allah Ta'ala a décidé que ce dunya connaîtra plusieurs étapes. Plusieurs étapes, plusieurs situations. Et Allah Ta'ala dit le Coran, « وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ » Allah a décidé que dans ce monde, les choses peuvent changer. La nature du monde, les puissances, il y a des gens qui peuvent monter, il y a des gens qui vont perdre de leur poids, de leur puissance, il y a des civilisations qui émergent, il y a des civilisations qui vont connaître la décadence, puis disparaître, puis être oubliées complètement, comme on a vu avec les civilisations romaines, grecques, etc. Et ça veut dire que l'organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce dunya est extrêmement précise. Jusqu'à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah azza wa jal savait qu'à partir de ce prophète, il n'y aura plus personne qui fera le lien entre le ciel et la terre. Il n'y aura plus personne qui fera le lien entre le ciel et la terre, ni humain, ni malaïka. Parce que le seul ange qui pouvait faire ce lien, les anges qui pouvaient faire ce lien, c'était par l'intermédiaire des prophètes de leur époque. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam décédé, plus de prophète, l'ange Jibril ne vient plus sur le dunya pour propager, pour ramener des messages de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, c'est un changement depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de cette époque, Allah ta'ala a décrété que la venue du dernier prophète constituera le premier des petits signes de Qiyam. Il faut qu'on comprenne que ça remonte très loin. Les petits signes de Qiyam n'ont pas commencé il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Ça a commencé il y a 1500 années lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, a été désigné comme prophète. Il est venu sur ce dunya. Cette venue, le bi'atha, est considérée comme le premier des petits signes de Qiyam. D'ailleurs, on va voir aujourd'hui, dans un instant, inshallah, lorsque il y avait des sahaba, des gens qui sont devenus sahaba en se convertissant, mais avant ils n'étaient pas encore musulmans, ils ont vu Dajjal sur une île, et parmi les quatre questions que Dajjal leur avait posées, c'est: que savez-vous du Annabi al-Ummi, du prophète Mohammed? Est-ce qu'il est venu sur cette terre? Et là, ils ont répondu, oui, il est sur cette terre. Est-ce que les gens l'obéissent ou les gens ne le suivent pas? Et puis, ils ont donné les réponses, on verra ça en détail tout à l'heure. Même Dajjal, parmi les questions qu'il a posées aux gens, c'était: est-ce que ce prophète-là a déjà été envoyé? Alayhi salatu wassalam. Sachant que la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe déclencheur de toutes les alamat issa'a, toutes les ashrat issa'a, tous les signes du qiyam. Et donc, on avait passé en revue tous les petits signes, et cette non-introduction, le but c'est qu'on comprenne que Allah Ta'ala ne détruira pas ce dunya du jour au lendemain. Allah Ta'ala a décidé que pour la destruction de ce dunya, et ce monde ne remonte pas à l'époque du prophète, ça ne remonte pas à l'époque de Adam et Sam, mais bien avant, lorsque, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y avait que les djinns qui peuplaient ce monde. Donc pour qu'Allah détruise ce qui existe depuis, Allah seul sait combien de dizaines, de centaines, de milliers d'années, voire de millions d'années, Allah a également instauré un tertib, une sunna. Il y a une mise en place de certains événements qui doivent avoir lieu pour que peu à peu les signes soient présents pour que ce dunya soit détruit. C'est pas du jour au lendemain que le soleil se lève à l'ouest et que c'est la fin du monde. Et le premier des petits signes, c'est la venue du prophète alayhi salatu wassalam, et au fur et à mesure des cadences dans le dîn, dans la religion, dans le comportement, dans les habitudes, jusqu'à ce que Allah Ta'ala décide que le monde connaisse une telle situation où le simple fait de s'affirmer comme musulman, le simple fait de proclamer sa foi est devenu un motif suffisant pour que les gens vous détestent, voire qu'util. Comme on a dit dans certains hadiths, que celui qui dit la ilaha illallah, sa vie sera en danger, cette personne risque d'être tuée. Et on avait vu également que plus les années passent, plus nous constatons que il y a une montée d'islamophobie. Ce n'est pas qu'en France, c'est du manière générale en Europe, c'est du manière générale dans le monde entier, Wallah musta'an. Mais il faut savoir que cela ne fera que s'empirer jusqu'à la venue d'Imam Mahdi. Parce que lorsqu'Allah Ta'ala va envoyer Imam Mahdi, c'est que la situation sera invivable. La situation pour les musulmans sera tout simplement insupportable, et cela rejoint d'autres hadiths qu'on avait détaillés il y a quelques temps, c'est que pratiquer sa religion à la fin des temps sera aussi dur que de tenir une braise dans sa main. Effectivement, de nos jours, pour qu'une personne vraiment reste ferme dans son dîn, puisse affirmer fièrement son appartenance à l'islam, il faut vraiment être courageux. Alors qu'on est à La Réunion, mais maintenant, comme on disait dernièrement dans notre programme, quand on pense à nos frères et sœurs en islam qui sont en métropole, où la situation est loin d'être aussi harmonieuse qu'ici, nous pensons également à nos jeunes frères étudiants qui quittent La Réunion, qui vont aller 4 ans, 5 ans, 6 ans en métropole. Vous savez, quand vous êtes éloigné, vous n'avez plus de contexte, plus de rattachement avec la religion, vous n'avez pas de savant, de alim, de fundi, ou de, comment on va les appeler, ça agaçant ce camion de poubelle. Si quelqu'un peut le déplacer, ou quelqu'un déplace sa voiture, Rachid, je ne sais pas c'est qui, c'est agaçant. Donc, ces personnes qui sont loin, loin, loin de toute source d'inspiration, de toute façon, de toute manière, pour se ressourcer dans le dîn, alors rester ferme dans sa religion, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Sachant qu'on est à une époque où on n'a pas besoin d'aller chercher le péché. C'est le péché qui frappe à votre porte. L'alcool est partout, le zina, l'adultère est partout. La mixité a été faite, Allah musta'an, en sorte que n'importe qui peut faire le zina n'importe quand. N'importe qui peut avoir une femme pour n'importe quelle soirée, n'importe quel moment, même si j'exagère, pardon, mais le zina est devenu quelque chose, on dirait pas d'accessible, mais quelque chose de normal. Un tel point que même dans notre communauté, Wallah Musta'an, on trouvera des gens qui finiront par banaliser le péché, par considérer que le zina, ce n'est que de l'amour. Aimer quelqu'un, c'est quelque chose de pur. Je n'ai pas tué, je n'ai pas frappé. J'ai dit, ils vont peut-être même dire que moi au moins j'aime cette femme, et il y a d'autres musulmans qui battent leur femme. Ça c'est des paroles qui viennent directement d'inspiration satanique pour que la personne finisse par cautionner, par accepter, par normaliser son péché. Donc, une décadence dans les mœurs jusqu'à ce que, comme on l'a dit, la umma aura de plus en plus de difficultés, la umma tulistijaba, à rester ferme dans son dîn. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal va envoyer quelqu'un qui va sauver cette umma et qui va lui redonner son izza, tout son honneur. Et c'est Al-Imam Al-Mahdi, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait expliqué en 8 ou 9 séances. On a vu également qu'après, pas après Imam Mahdi, quelque temps après la venue d'Imam Mahdi, lorsqu'Imam Mahdi, alhamdulillah, il va pouvoir forger le respect, il va ramener le izza, l'honneur à cette umma, et qu'il y aura des batailles. Imam Mahdi sera combattu. Il y a des gens qui auront pour mission, mashallah, on a quand même un invité qui a fait 110 km de tampon pour venir au programme. Bien sûr, à l'échelle métropolitaine, pour nos jeunes réunionnais qui ont vécu ailleurs, 110 km, je ne sais pas, vous le faites peut-être tous les matins pour aller acheter une baguette, je ne sais pas, hein, j'exagère. Mais pour nous, 110 km, on est moussafir, voilà. C'est le cas de le dire, on est moussafir. Allah, que ça fait une charge. Espérons qu'il est venu avec beaucoup de bonnes choses du Sud. Il sait de quoi je parle. Alors donc, pour revenir à ce qu'on disait, subhanallah, Qu'est-ce qu'on disait? Oui, alors Imam Mehdi, à partir du moment où il sera officiellement, il sera reconnu comme Al-Mehdi, que les gens auront fait le pacte d'allégeance, le bay'a. Vous savez, le bay'a, ça se fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le bay'a, ça se fait avec le Amir al-Mu'mini. Et le bay'a se fera avec le Imam Mehdi. Lorsque les gens le reconnaîtront, on a dit qu'il y aura certains signes qui feront que les gens vont reconnaître que c'est lui Al-Mahdi. C'est-à-dire qu'il y aura tout d'un coup une armée qui viendra d'un endroit particulier, une armée qui l'attaquera. Et de nos jours, quand il y a une guerre en deux pays, ça se sait quand même. Et vous voyez, il y a l'ONU qui essaie d'entrer, de défendre ces pays. Quand c'est, bien sûr, quand ce n'est pas des musulmans qui sont massacrés, ils essaient de défendre la population parce qu'il faut être humain quand même. D'accord ? Et à cette époque-là, immédiatement, une armée sera levée contre Imam Mehdi. Mais chose inexplicable, et ce qui restera inexpliqué pour ceux qui n'ont pas le iman, mais qui réveillera le iman de beaucoup de gens, c'est que l'armée qui essaiera de combattre Imam Mehdi sera engloutie. Ça c'est des choses, ça c'est comme les adabs des peuples précédents, ça. Ça on n'en trouve plus de nos jours. L'armée dans son intégralité sera engloutie, même les gens qui seront avec les combattants, ceux qui n'avaient pas l'intention de combattre les musulmans, c'est-à-dire géographiquement il y aura, je ne sais pas comment on appelle ça, un affaissement, un glissement de terrain, où on pourrait dire, on ne parle pas de zilzal, on ne parle pas de séisme, dans les hadiths, de tremblement de terre, on dit plutôt que c'est la terre qui va les engloutir, et lorsque les musulmans vont voir une armée a été engloutie de la sorte, ils vont et alors qu'ils voulaient tuer un homme qui se proclame être Mehdi, il n'y aura plus le moindre doute, ce sera lui. Donc il n'y a pas besoin de se forger des histoires, comme beaucoup de gens disent que Imam Mehdi a été aperçu à tel endroit, ou c'est ce Hajja qui va sortir, et tout, non. Ça, il n'y a aucune nécessité. Le cheikh qui était là l'autre fois, il y a quelques années, Cheikh Alifi me disait encore que les signes de Qiyama, ce sont des signes qui auront un rôle essentiel, pas dans notre dîne, dans l'histoire de l'humanité. Parce que ce sont des événements qui vont changer le cours de l'histoire de l'humanité. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher les signes de Qiyama avec une lampe de poche, avec une loupe, essayer de détecter est-ce que c'est lui, pas Imran, hein, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, est-ce que c'est lui, Imam Mehdi ? Non. Ce sera Bayyin, on le verra. Dajjal, il n'y aura pas besoin de chercher, comme certains ils ont essayé d'avancer des hypothèses, que Dajjal, c'est peut-être que la télévision, parce qu'il ne va pas courir le monde entier, maintenant tout le monde a la télé, ce genre de choses. Non, ce sont des choses évidentes qu'Allah a créées pour mettre fin au aqaïd et mettre fin à la civilisation. Et ce sera ce qui marquera la fin de la Oumma et la fin du monde d'une manière générale. Donc, Imam Mehdi sera reconnu, il ramènera le Izza, comme on l'a dit, il sera combattu. Donc quand quelqu'un est combattu, il doit se défendre. D'accord ? Et à cette époque, beaucoup de pays musulmans seront envahis par des gens qui n'ont pas iman. Ce qui fait qu'Imam Mehdi aura à rétablir la justice. Et ça, c'était l'avant-dernier programme qu'on a fait, les conquêtes à l'époque d'Imam Mehdi. On a vu jusqu'à où Imam Mehdi ira. Et donc, à une époque où Imam Mehdi sera en train de combattre, il aura réussi une victoire, il y aura une victoire écrasante, hein, si je ne me trompe pas, c'était celle de Constantinia, qu'on avait traduit par Constantinople. Après la bataille et la conquête de Constantinople, ou alors la reconquête, donc on a des profs d'histoire là, donc j'ai un peu honte dans mes termes de géographie. Donc après la reconquête de Constantinople, là viendra la nouvelle que Dajjal est apparu. Et ce sera une fausse nouvelle. Et Imam Mehdi enverra 10 cavaliers. Hein, ça c'est un dorn, hein, on révise un peu ce qu'on avait fait avant. Il enverra 10 cavaliers parmi les combattants musulmans et ce seront les meilleurs cavaliers, on pourrait dire les meilleurs, parmi les meilleurs hommes qu'il y a dans ce dunya. Parmi les plus grands mu'minines de ce dunya. Et le prophète alayhi salatu wasalam dit que je connais le nom de ces gens, le nom de leur père et même la couleur de leurs chevaux. C'est pour dire que moi, le prophète avait une science précise qu'Allah lui avait accordée concernant la fin des temps. Science qu'aucun prophète avant lui n'a eue. Ce qui distingue, c'est un des signes qui distingue encore plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque ces cavaliers iront chercher l'authenticité de la nouvelle, ils verront que ce n'était pas vrai, hein, c'était de la désinformation, mais très peu de temps après, Ad-Dajjal viendra réellement. Donc les musulmans seront plus ou moins préparé à un que Dajjal. D'ailleurs, Imam Mehdi, il sait pertinemment qu'après telle conquête, ce sera à ce moment précis que Dajjal devra faire son apparition. Bon, maintenant, l'apparition de Dajjal, les premières choses qu'il va faire, qui va suivre Dajjal, tout ça, il y a, mashallah, il y a pas mal de choses au programme. Mais ce qu'on avait commencé il y a 4 mois, je pense, c'était au mois d'avril, on avait expliqué. On avait donné la définition de Dajjal, définition d'Ibn Kathir, rahimahullah. Hein, on résume rapidement, qui dit que Dajjal n'est pas un monstre déjà. Ce qui est présenté, si vous tapez Dajjal, en France c'est D-A, D-J-A-L ou alors Dajjal en arabe sur Google Images, ben vous allez voir des photos de monstres. La plupart du temps, vous aurez des cyclopes, vous aurez des enfants qui sont nés avec un œil là, avec le visage complètement mal formé ou déformé, comme on dit. Et beaucoup de gens pensent que c'est Dajjal. C'est-à-dire, les gens aimeraient trouver, aimeraient avoir le scoop d'avoir la photo de Dajjal. Non, Dajjal ne sera pas pris en photo. Et tant qu'il n'aura pas sa mission officielle, il ne vivra pas parmi nous. Comprenons bien que de 1, ça ne peut pas être les photos qui circulent sur Internet, parce que Dajjal est déjà né, il est déjà adulte. Il est grand, c'est un grand Dajjal, d'accord? C'est pas qu'on va voir un bébé et qu'on va suivre son évolution et que ce sera lui le futur Dajjal. Non, il est déjà né, premièrement. Et deuxièmement, Dajjal ne vivra pas parmi les hommes. C'est pas que Dajjal peut être votre voisin, peut-être votre patron, peut-être votre collègue, et qu'après on découvrira que c'est lui Dajjal. Non, c'est quelqu'un qui va vivre à part. Et le hadith du jour, c'est ce hadith où les sahaba ils ont vu Dajjal sur l'île, et c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera l'ordre de sortir qu'il brisera ses chaînes, soit il les brisera, soit on brisera pour lui, je ne sais pas, mais il quittera cette île et là il ira vers une région particulière où il va rassembler son armée et il va commencer à accomplir la mission qu'Allah lui a donnée. Donc un être humain et non pas un monstre, pas un cyclope, pour enlever ces fausses images de notre conception du Dajjal, qui apparaîtra, comme on l'a dit, à la fin des temps. Et on a vu que le Dajjal, c'est le plus grand fitna qui existe. Et il n'y a pas une fitna, il n'y a pas une source de perdition plus grande que le Dajjal. Et Allah Ta'ala l'a envoyé sur ce dunya comme un mihna, comme une épreuve pour les gens. Tout comme Shaitan est une épreuve pour les gens, Allah aurait pu faire en sorte que, dès le départ, Shaitan se prosterne devant lui, et qu'il n'y ait pas de mal, et que tout le monde adore Allah, et qu'il y ait des musulmans dans le monde entier jusqu'à la fin des temps. Mais Allah a voulu distinguer les gens qui l'obéissent des gens qui vont suivre leurs instincts, leurs pulsions, leur hawa, leur shahawad, comme on pourra l'appeler, les gens qui ne vont pas obéir à Allah. D'où la création de Shaitan, d'où la création des péchés, d'où la création des plaisirs qu'il y a à travers les péchés, d'où la création de Dajjal, dont le but est d'éprouver les gens, de faire la distinction entre Ahlul Islam, les gens qui vont accepter l'ordre d'Allah, des munafiqs, des gens qui disent la ilaha illallah, mais dans le fond n'ont pas de réel iman de leur cœur et qui malheureusement tomberont dans le piège de Dajjal, et des gens qui n'ont pas accepté la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce qu'il faut savoir également, on ne va pas tout dire en même temps sinon on va s'emmêler les pinceaux, la venue de l'antéchrist, ça fait partie des croyances communes avec les... Avec qui? Quelle religion? Ah, il ne faut pas se tromper là, avec les chrétiens, ce n'est pas d'autres. La venue de l'antéchrist... Oh, cher. La venue de Dajjal, de l'antéchrist, fait partie des croyances communes que nous avons avec les chrétiens. Mais si on a la possibilité, la prochaine fois, on va inch'Allah essayer de développer quelle est la conception de l'antéchrist selon les chrétiens, et on pourra peut-être comparer avec notre vision, notre aqidah sur Dajjal. Tout comme pour l'imam Mahdi, on avait vu que l'imam Mahdi de Ahl Sunnah, ce n'est pas l'imam Mahdi des chiens, qu'ils attendent quelqu'un d'autre dont la mission sera totalement différente. C'est quelqu'un qu'ils attendent dans une grotte qui doit sortir, mais sortira pas, ça je ne sais pas. On continue. Et donc on a vu également que tous les anbiya alayhi salatu wa salam ont mis en garde leur Umma contre Dajjal, et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est celui qui a le plus donné d'informations à son sujet. On avait dit également quand est-ce qu'il va sortir, on avait développé qu'au début, il va proclamer être un roi, un dirigeant, ensuite, il proclamera être un prophète, et ensuite, à la fin, il proclamera Al-Uluhiyya, qu'il est Dieu, qu'il est Allah. Et on avait vu que depuis l'époque de Pharaon, plus personne, wallahu alam, n'a osé proclamer être Dieu. On avait également que parmi les points abordés brièvement, que Dajjal va parcourir le monde entier, et il n'y a pas un pays ou un continent ou une île ou une région où Dajjal ne posera pas les pieds pour essayer de convaincre les gens et de les ramener vers son invitation, vers ses croyances. Et là, à l'occasion, je pense qu'on avait rappelé le hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si vous entendez parler de Dajjal, surtout n'allez pas le voir, parce qu'un musulman peut penser avoir le iman de son cœur. Quelqu'un peut être persuadé que moi, je suis muttaqi, moi j'ai la foi dans mon cœur, et que je vais juste voir qu'est-ce qu'il fait comme miracle, mais je ne vais pas le suivre. Mais dans le fond, notre iman est tellement faible, on pourrait donner l'image d'une toile d'araignée, qu'on a l'impression que c'est grand, ça fait 2 mètres ou 3 mètres de diamètre, mais le moindre coup de vent, Allah musta'an, ça s'effrite, hein, et il n'y a plus de traces. Et pareil, il y a des gens qui vont perdre leur iman, des gens qui peut-être, je m'avance, ils auront passé leur vie dans l'adoration d'Allah, mais en voyant Dajjal, ils vont être tellement impressionnés, parce qu'Allah va lui accorder des pouvoirs comme personne n'a eu. Allah va lui accorder des pouvoirs comme personne n'a eu à part les ambiens alayhi mussalat wa salam. Sauf que les pouvoirs qu'Allah a accordés au prophète alayhi mussalat wa salam, on appelait ça des mu'jizas, des miracles dont le but était de ramener les gens vers le droit chemin. Mais les miracles de Ad-Dajjal, on appelait ça des istikhraj, ce sont des miracles, mais le but c'est de détourner un maximum de gens du droit chemin. Et malheureusement, ceux qui n'avaient pas la foi, ils vont le considérer comme leur Dieu. Principalement une autre, ce que tu as dit tout à l'heure, d'autres personnes qui l'attendent dans le but, dans ce but précis. Et malheureusement, même parmi les musulmans, ceux qui ont la foi, beaucoup de gens qui n'auront pas une foi solide vont voir des choses extraordinaires, comme un homme qui aura perdu son père et sa mère, qui verra Dajjal, l'antéchrist, venir le voir et lui dire que si je redonne vie à tes parents, est-ce que tu attesteras que c'est moi ton Dieu? Et effectivement, il va faire en sorte que les corps ressurgissent de la terre et que le papa et la maman soient ressuscités et vont dire à leur enfant, oh mon fils, atteste que c'est lui ton Dieu parce que je te promets, cet homme-là disait la vérité, c'est ton Dieu. C'est-à-dire un niveau de miracle qu'il faut vraiment avoir une foi solide pour résister. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Ça ne veut pas dire que celui qui voit Dajjal, il est cuit, c'est fini, il va perdre son iman. Non, il y aura des gens qui vont faire opposition, qui vont résister. Et je ne sais pas si on a dit ou alors on est en train de tout mélanger, mais même si on mélange tout, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est des points qu'on détaillera par la suite. Ce qu'on voudra bien détailler, on a dit qu'à cette époque-là, les meilleurs parmi les musulmans seront réunis où ça? Dans la région de Sham et dans la région près de la Palestine, autour de Baytul Maqdis. Ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Ce qui est quand même une bonne nouvelle qu'à la venue de Dajjal et à l'époque d'Imam Mahdi, les meilleurs des musulmans seront réunis à cet endroit. Donc, il y aura donc des gens, des mu'minines qui vont combattre Dajjal, qui ne vont pas tomber dans le piège de Dajjal, et également il y aura l'histoire de ce jeune homme qui va défier Dajjal près de Madina Munawwara, qui va le mettre au défi et que Dajjal donnera la mort et redonnera la vie dans le but de le persuader et de persuader les gens qui sont autour qu'il est vraiment le créateur, parce que c'est que le créateur qui peut donner la vie et la mort. Et là, lorsqu'il va ressusciter, ce jeune dira, c'est un jeune. Là aussi, une parenthèse, on voit quelle est l'importance des shababs, des jeunes dans notre religion. C'est pas un vieux bouzlouk 70 ans, c'est un jeune homme, mais un jeune homme avec un degré de iman extraordinaire. Un peu comme Iqbal, un degré de iman, ou un peu plus quand même, un degré de iman exceptionnel. Et il va dire que ce que tu viens de réaliser, c'est exactement ce que mon prophète m'avait annoncé. Parce que vous savez, dans ces moments-là, où il faut prendre une décision, faire la part des choses entre ce qu'il y a de votre foi, entre ce que vous avez appris et ce que vous constatez, c'est autre chose là. Faire la part des choses, c'est pas comme quand on est assis dans un programme où on dit que oui, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est halal, c'est haram. Quand on est exposé au haram ou quand on est exposé au fitna, c'est autre chose. C'est ce qu'il y a vraiment au fond du cœur qui ressort. Je peux vous faire un programme d'une heure de temps sur le zina, avec notre jeune Hafez Ab Zakaria, lui expliquer le convaincre que le zina est interdit, ou quelqu'un d'autre, avec n'importe qui, et la personne peut être persuadée que le zina c'est quelque chose qui vous fait perdre momentanément votre iman. Mais, dans le métro, ou dans le bus, dans le car jaune, ou dans la rue, ou dans une pizzeria, d'accord? Le coup de foudre, parfois ça ne pardonne pas. Et là, on teste le iman de la personne. Surtout quand le coup de foudre est réciproque, c'est d'un seul sens. On est habitué, mais malheureusement. Hein, mais quand c'est dans les deux sens et qu'il y a une attirance, par les poilus, pas pour moi, hein, qu'il n'y ait pas de confusion, on parlait de notre frère, habitué de coup de foudre, dans un seul sens, d'où sa grande frustration. D'accord? Et donc, on revient, quand le coup de foudre est mutuel et qu'une fille qui vous plaît, vous fait des avances, et vous propose de faire le zina. Alors là, franchement, vous pouvez mémoriser les ayats, vous pouvez être hafiz al-Qur'an, mémoriser les ayats du zina, les hadiths qui mettent en garde contre le zina, retenir tout ce qu'on a dit, mais ça c'est le ikhtibar. Ça c'est le moment clé où notre foi est mise à l'épreuve. Est-ce que c'était des blabla, comme moi j'ai beaucoup de blabla, mais est-ce que j'ai quelque chose de le fond? Allah seul le sait, ou alors vraiment j'ai un iman solide, comme les sahaba ont iman solide, qui fait que ils savent ce qu'ils font et jamais ils ne se mettront dans une position, dans une situation, ils vont désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith wa la haraj, que ce soit l'adultère, que ce soit la consommation d'alcool, quels que soient les péchés. C'est-à-dire que c'est quand on est exposé, c'est pas comme quand on en parle. Quand on vit le péché, qu'on affronte le péché ou qu'on affronte le fitna, comme c'est le cas de Dajjal, quelqu'un qui voit Dajjal en face de lui, c'est autre chose. C'est comme si, c'est une image, hein, excusez-moi, ça n'a rien à voir. On voit par exemple Zidane ou je ne sais pas quel autre joueur, je crois qu'il y a encore des joueurs français qui jouent au football. Il y en a encore, je crois, non, des français qui jouent après Zidane. Quand on voit à la télé Zidane par exemple, d'accord, on voit ce qu'il fait, d'accord, mais le voir devant vous et tout, ce qui procure, c'est autre chose. D'accord, c'est une image. On comprend qu'on va entendre que Dajjal va faire ça. Il va ressusciter des parents qui sont morts. Il ira voir un paysan, parce que quand Dajjal va venir, on verra par la suite, ce sera après 3 années de famine comme jamais l'humanité n'aura connu. Les gens mourront de faim et mourront de soif. Et ce Dajjal-là, il trouve le moyen de venir auprès d'un agriculteur. Il dit que je redonne vie à tout ton troupeau. Et je t'accorde des récoltes comme personne n'en a, des fruits et des légumes, c'est-à-dire des choses extraordinaires. C'est-à-dire, grâce à moi, tu redeviendras riche et ta famille va manger, tes enfants ne mourront pas de faim, ta femme ne mourra pas de faim. Imaginez ce qui se passe dans la tête de ce mu'min-là, ce qui peut se passer dans la tête de ce musulman qui se dit que soit je reste dans mon la ilaha illallah au risque de tout perdre, de voir mes enfants mourir de faim et moi-même devant moi, ou alors j'accepte. Je suis cet homme-là et je deviens un homme riche, je protège. Yani, ce sont des moments très difficiles. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans de ne jamais aller à la rencontre de cet homme-là. D'accord ? Et dans d'autres circonstances, parce qu'on parle du sujet, affronter le péché, affronter le fitna n'est pas souhaitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que la tatamanna liqa al-adou. Ne souhaitez pas rencontrer l'ennemi. Ça c'était à l'époque des Sahaba, hein. Il dit que n'ayez pas le souhait d'avoir un ennemi qui essaie de vous tuer et que vous devez vous défendre, parce que face à l'ennemi, on ne sait pas est-ce que on affronte, est-ce que notre iman est suffisamment solide. On parle de l'époque des Sahaba, bien sûr, qu'on ne comprend pas ce que j'ai en train de dire. Et ou alors il y a la peur qui prend le dessus et on s'enfuit. Parce que c'est ça, face à l'épreuve, face aux difficultés, c'est là que la réalité de la foi, elle refait surface. C'est là qu'on voit qu'est-ce qu'il y a réellement de le cœur. Et par analogie, on peut dire également, c'est la même épreuve dans la tombe. Lorsque les anges viennent poser les questions, c'est pas une leçon par cœur qu'on va réciter, c'est pas un sabbat qu'on a appris, c'est pas un mémo qu'on peut écrire sur notre kafan. On dit, Toton Daoud, écris mon kafan les 3 réponses, et juste au niveau de la tête, moi, quand les anges viennent, j'ai la réponse. Non, c'est ce qu'il y a dans le cœur réellement qui ressort, qui permet aux musulmans, aux mu'mines de répondre aux questions des 2 anges dans la tombe. Donc, le moment où on affronte le péché, le fitna, les difficultés, c'est là que la réalité du iman va ressurgir. Donc c'est pour ça que le prophète nous a interdit de rencontrer Ad-Dajjal. On a parlé donc là des quelques miracles. Et enfin, à une époque, Imam Mahdi va également mourir. Et Isa alayhi salam, qui sera là, donc sera une époque où il y aura Imam Mahdi, Ad-Dajjal et Isa alayhi salam, les 3 en même temps. Et Imam Mahdi va mourir et Isa alayhi salam va définitivement reprendre le commandement des musulmans. Et là, il va mettre fin au joueur de Dajjal, il va le tuer comme Allah lui ordonnera de le tuer. On a vu également qu'il y a l'appellation Al-Masih, le Messie, qui est utilisé pour Imam Mahdi et également pour Ad-Dajjal. Et on a vu que, non, ça on n'avait pas vu, par contre Ad-Dajjal, la définition, l'étymologie de Dajjal, ça vient de 3 lettres, le Dal, le Jim et le Lam. Et Ad-Dajjal, c'est Al-Kadib. Ad-Dajjal, c'est le mensonge. Dans la langue arabe, on connaît plus Ad-Dajjal comme le mensonge, mais au sens propre, littéraire, vraiment, si on remonte, Ad-Dajjal, c'est le fait de recouvrir. Le fait, par exemple, de recouvrir une moquette ou un banc de quelque chose, on utilise le verbe dal avec les 3 racines, le dal, le jim et le lam. Et donc, Ad-Dajjal, c'est le surnom de l'antéchrist, parce qu'il y a deux raisons. Un, parce qu'il va recouvrir la surface de la terre. Il va recouvrir la surface de la terre en termes de distance, parce qu'il ne va pas recouvrir toute la surface de la terre. Également, par rapport à ce qu'il va propager, il va recouvrir, ça c'est un langage imagé. La langue arabe est une langue très imagée. Il va recouvrir la vérité de sa sorcellerie et de ses mensonges. C'est pour ça qu'on le surnomme Ad-Dajjal, celui qui recouvre la vérité de son mensonge, de sa sorcellerie, de ses ruses, des méthodes qu'Allah Ta'ala lui a accordées. On en est à combien là? On en est à 28 minutes, encore 15 minutes, Inch'Allah, grand maximum. C'était donc là un petit récapitulatif de ce qui a été fait depuis le mois d'avril. Maintenant, comment reconnaître Dajjal? On va être un peu concis, Inch'Allah, la description physique de Dajjal. Alors, il y a beaucoup de hadiths. Si on va réciter chaque hadith, ça nous prendra beaucoup de temps. Mais en général, j'aime le faire pour que les personnes qui écoutent dans l'assemblée ou même par lien interposé, ils savent que ce que nous disons dans l'assemblée, ce sont des paroles qui viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toutes les histoires, les fables, les trucs qui se racontent de père, de génération en génération, les grands-parents, ces choses qui ne sont pas fondées, ça, ces choses-là n'ont pas de place dans nos assemblées. Donc la plupart des choses qu'on dit, Inch'Allah, ont une chaîne de narration authentique, et cela remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors aux sahaba, ou alors c'est l'opinion des tabi'in que eux-mêmes ils ont certainement eu de la part des sahaba. Donc en résumé, on fait une synthèse, description de Dajjal. Déjà, ce sera un jeune homme. Vous allez me dire que je viens de dire tout à l'heure que Dajjal existait avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis on va dire 1500 années. 1500 années, pas une ride. Quel est le secret de Dajjal? C'est Allah qui a décidé que c'est une créature hors norme. C'est une créature hors norme. C'est une créature qui ne vieillit pas, et c'est une créature qui ne sera pas malade, etc., etc. Et on verra également, Dajjal est stérile également. Il ne peut pas avoir d'enfant. Heureusement, ça suffit un. D'accord? Dajjal, donc, c'est un être humain, mais qui a des caractéristiques particulières. Il est né. Est-ce qu'il est né? On ne sait pas. Est-ce qu'il a eu une naissance, bébé grandi? Oui, certainement, parce qu'on va voir des versions qui disent comment il est né. Donc, je m'excuse là-dessus, je me suis avancé. Dajjal, certainement, il est né, il a grandi, et à un certain âge, il a sa forme physique, qui sera sa forme physique qu'il aura à notre époque. Et il ne vieillit pas. D'accord? Donc, à son apparition, Dajjal sera un jeune homme. Jassimun filmanun. Jassim, c'est-à-dire quelqu'un qui aura une forte corpulence, sera quelqu'un de colossal, imposant, très, très costaud. Et les hadiths, il y a certains hadiths qui disent que Dajjal sera très grand, et d'autres hadiths disent que Dajjal est qasir. Alors là aussi, il faut qu'on comprenne bien. Parce que ça veut dire petit. Il faut qu'on comprenne bien que un musulman qui ouvre un livre de hadith en français, il ne doit pas tirer ses propres conclusions. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider à comprendre les hadiths prophétiques. Parce que la langue arabe est tellement subtile que la traduction française ne peut jamais retranscrire l'essence de la langue arabe. Et même s'il le fait, à certaines mesures, on a toujours besoin de confondre les versions des hadiths pour comprendre quel est le message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait passer. Les hadiths, c'est comme des pièces d'un puzzle, et en rassemblant toutes les pièces, on comprend quel était le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, il y a des jeunes qui ouvrent un livre, ils disent, oui, moi j'ai vu tout à l'heure dans les hadiths, donc ce que nous on fait c'est pas bon, c'était comme ça, il fallait faire. Non. Ce hadith a été dit dans telle circonstance, mais dans d'autres circonstances, c'était telle chose. Donc, on a toujours besoin d'un savant, d'un alim, fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun, pour que la personne nous explique quel est le sens des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cet hadith dit, on va lire le hadith, hein, juste pour celui-là, parce qu'il y a opposition, innahu azimul khalqa tawilul qama, qu'il aura une forte corpulence et il sera très long. Et dans le hadith, innal masih ad-dajjal rajulun khasirun, ce sera un homme court. Alors, la synthèse que les muhadithines font, c'est que par rapport aux autres êtres humains, Dajjal est très grand. Il sera plus grand que un homme de taille moyenne, d'accord? Très grand, très long. Mais par rapport à sa corpulence, sa taille ne sera pas suffisante. C'est-à-dire que même s'il fait, allez, je m'avance, même s'il fait 1m90, mais il aurait dû être beaucoup plus imposant que ça, alors que déjà, le sahaba qui l'a vu, il a dit que je n'ai jamais vu un être humain aussi gros, pas gros, mais aussi imposant. Le terme utilisé en arabe, c'est pas gros, ni costaud, ni charnu, ni c'est imposant. C'est-à-dire même le fait qu'ils soient imposants, mais il est encore trop grand, il aurait dû être encore plus imposant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est effrayant, quelqu'un qui fait peur quand on le voit. Ahmar Abiyad. Alors déjà, là on a la couleur de la peau de Dajjal. Ça peut... Déjà on comprend quelle est l'origine. Il descend de quelle civilisation? Dajjal aura la peau blanche, rougeâtre. C'est-à-dire qu'il ne sera pas arabe. Parce que les arabes, ils sont asmar. Un peu comme ceux qui sont d'origine indienne. La peau un peu brun. Et donc il ne sera pas non plus, il sera de race blanche, mais une race blanche qui va un peu vers le roux, on va dire. Qui va un peu vers le roux, vers l'ahmar en arabe c'est rouge, mais qui tend vers ce teint de peau. Et le hadith dit Hajjanun Azhar, riwayat d'Imam Ahmed. Dajjal aura un front dégagé, un grand front, je ne sais pas comme qui ça, mais Dajjal aura un grand front. Et on continue, Azimur Ras, il aura une grande tête, et on parle même de sa nuque, que sa nuque sera large comme, enfin, là aussi c'est imagé, comme un boa. Hein, ça c'est le terme de la hadith, c'est une image. Hein, les Arabes parlent beaucoup en image, d'accord. Il aura un cou imposant et une grosse, donc une grosse tête, il aura la grosse tête, et il aura donc un front dégagé. Kathir ou char, il aura beaucoup de cheveux. Et dans certains hadiths, on décrit les cheveux comme ka'annaha arsan ou shajara, comme les racines d'un arbre, c'est-à-dire des cheveux qui seront par mèche et désordonnés. On n'a pas dit que c'est un rasta, hein. J'ai pas dit rasta d'Adjal 974, non, mais il aura beaucoup de cheveux et ce seront des grandes mèches qui seront désordonnées. Donc tout ça, ça fait que quand quelqu'un voit Dajjal, on ne peut pas rester insensible. C'est une créature, c'est un homme qui fait peur. On n'a pas dit qu'il impose le respect, mais c'est quelqu'un d'effrayant. C'est quelqu'un d'effrayant. C'est pour ça qu'un gars comme ça, vous n'allez pas le croiser chez Castel quand vous achetez le pain le matin. C'est pas quelqu'un qui va vivre parmi les hommes. Il vit isolé des hommes. Et quand sa mission commence, il apparaît immédiatement. Et ceux qui vont le suivre, ils vont, pour pas dire l'adorer, l'aduler, ils vont immédiatement faire partie de son armée. Parce que Dajjal, il n'a pas des atba'a, c'est pas des disciples, c'est une armée qui se déplace avec Dajjal, avec pour but, ce qu'on va voir, les différents objectifs de Dajjal. Ja'adur ra'si, donc on revient un peu sur les cheveux seront de type frisé. Alors quand quelqu'un a des grands cheveux, si c'est des cheveux longs, c'est beau, mais quand c'est des grands cheveux frisés, touffus, qui fait comme une montagne désordonnée, là vous comprenez que c'est quelque chose d'effrayant. Jufal ou Sha'a riwayat d'Imam Muslim. Ay kathirun wa mutafarriqun qa'imun. Le commentaire d'Imam Nawawi, beaucoup de cheveux dispersés qa'imun. Certains cheveux, hein, ils ont un peu plus de volume que d'autres. Aridun nahri, ça on a dit tout à l'heure. La yuladu lahu, comme on a dit tout à l'heure, Dajjal ne pourra pas avoir d'enfant. Natala fait en sorte que c'est un homme stérile. On comprend par déduction que Dajjal, les hadiths ne disent pas que si Dajjal se mariera. Donc on peut déduire qu'il ne se mariera pas, Dajjal sera stérile. Donc il n'y a pas tout qui marche chez lui. Alors également afhaj. Alors afhaj, c'est un terme un petit peu plus compliqué. Inna al-masih ad-dajjal qasirun afhaj. Afhaj, ça veut dire, en la traduction, c'est les pieds cagneux ou arqués. C'est-à-dire que les chevilles qui sont proches avec une distance entre les genoux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, hein, on appelle ça ubrulqiyah, des gens qui ont une déformation au niveau des os des jambes, c'est-à-dire les chevilles, hein, quand ils se mettent debout, la position des chevilles elle est excessivement rapprochée et les genoux sont écartés. Alors j'ai deux termes, je ne sais pas ce que ça veut dire la même chose, cagneux ou alors les pieds arqués. Donc dans sa démarche même, il y aura une différence par rapport à quelqu'un de normal. Et en commentaire, les muhadithines disent, regardez, tous les pouvoirs qu'Allah lui a accordés, mais ces défauts-là, il ne peut pas les corriger lui-même. Il peut ressusciter quelqu'un qui est décédé, il peut redonner vie à un troupeau ou en faire pousser de la verdure, des fruits, des légumes, il ordonnera à la pluie de tomber et la pluie tombera à ses ordres, mais il ne peut pas combler les défauts qu'Allah a mis dans son apparence, dans sa physionomie, dans son physique. Ça c'est la hikmah d'Allah, la sagesse d'Allah, pour que ceux qui ont iman dans leur cœur reconnaissent la description de Dajjal. Et au-dessus de tout ça, il y a bien sûr l'inscription kafir sur son front. Mais cette inscription kafir, Irfan, elle fait 110 km, c'est pas pour voir le réveil, on t'enverra un réveil comme ça au tampon, Inch'Allah. Dajjal aura sur son front écrit quoi, Irfan? Kafir, d'accord. Et dans certaines sourates, ce sera kafir de manière intégrale, kaf, alif, fe, ra, comme on a en langue arabe. Et dans d'autres sources, on dit que ce sera trois lettres séparées, le kaf, le fa et le ra. Alors là aussi, il y a des hadiths, mais on ne va pas tous les lire, hein, parce qu'on a expliqué en gros. Et les muhadithins, rahimahullah, ils expliquent également, ce hadith-là particulièrement est important. Le prophète dit que cette inscription ne pourra être lue que par des musulmans. وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ voilà. يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٌ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٌ. يعني n'importe quel mu'min pourra lire l'inscription de Kafara sur le front de Dajjal, كَاتِبٌ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٌ, que ce soit quelqu'un de lettré ou d'illettré, même celui qui ne sait pas lire. Ou celui qui ne sait pas lire, on va dire l'arabe, quelqu'un qui ne sait pas lire l'arabe va reconnaître les signes, va reconnaître que sur le front de Dajjal c'est écrit kafir. Et dans un autre hadith, hein, dans Sahih Muslim,
Hein, ça c'était yaqrahu man kariha amalah, yani le musulman qui ne sera pas d'accord avec sa mission, celui qui déteste les actions de Dajjal, c'est-à-dire celui qui a le vrai iman de son cœur, ce musulman-là pourra lire l'inscription et donc reconnaître que c'est Al-Masih Dajjal. Et les ulama en parallèle, ils expliquent également que le fait qu'un arabe non musulman, je dis bien un arabe ou alors un arabophone tout simplement non musulman, ne puisse pas lire kafir sur son front, alors qu'un non-arabe, mais musulman, pourra le lire, ça prouve également qu'on sera à une époque où les lois de la nature vont changer. Il y a des choses qui vont se produire contrairement aux habitudes. Vous savez, les règles chimiques, les formules, hein? Non, il y a un dérèglement, mais le fonctionnement, hein, tout ce qu'on connaît en termes de chimie, en termes de logique, en termes d'application, tout ça, c'est des règles, des lois physiques et chimiques, c'est ce que je voulais dire, qu'Allah a décidé qu'ils régissent le fonctionnement de ce monde. Mais à la fin, le jour de Qiyamah, c'est autre chose. Mais déjà, à la fin des temps, il y a un dérèglement. Dérèglement de le temps déjà, quand on verra que une journée correspondra à un an. Et ce sera un an sans lever ni coucher du soleil. Chose qui, pour l'instant, n'est pas plausible. Même si certains scientifiques disent que s'il y a telle chose dans l'atmosphère, il est possible. Bref, mais cela nous fait comprendre que le temps, le climat, toutes ces choses-là dont nous maîtrisons le fonctionnement, à la fin des temps, Allah Ta'ala décidera de suspendre cette organisation, cette sunna qu'Allah a mis en place depuis la création de l'humanité. Et là aussi, les yeux, ça c'est un commentaire magnifique, celui qui commence le hadith dit que le fait de voir, c'est une qudra, c'est une possibilité qu'Allah donne à chaque personne, mais à ce moment précis, Allah reprendra la faculté de voir ces termes-là pour celui qui n'a pas la ilaha illallah dans son cœur. Et celui qui normalement, celui qui ne sait pas lire, ne peut pas déchiffrer quelque chose, sauf si Allah disait que les choses se passent ainsi, Allah Ta'ala donnera à cette personne illettrée la possibilité, ou cette non-arabophone, la possibilité de voir précisément qu'il est écrit kafir sur le front de Ad-Dajjal. Et tout ça prouve qu'à la fin des temps, il y a des choses qui seront contraire à leur fonctionnement en temps normal, c'est parce qu'on est en train d'entrer peu à peu dans le monde de Al-Ghaib. Parce que la venue de Dajjal, comme on a dit, ça fait partie de Iman de Yom Il-Akhir. Et tout ce qui a trait à l'au-delà, c'est l'autre monde. Et quand l'autre monde vient de ce monde, c'est normal qu'il y a des choses étranges qui nous apparaissent. Quand Imam Mahdi vient, quoique certains disent que Imam Mahdi c'est parmi les petits signes, il y a divergence. Mais Dajjal, c'est sûr que c'est un grand signe. Quand Dajjal vient, quand Gog et Magog viennent, ou apparaissent, on pourrait dire, quand Adab, cette bête qui va surgir à Makkah, va apparaître, c'est le monde de l'invisible qui est en train d'entrer, de pénétrer dans le monde du visible. Et ce ne sont pas les mêmes lois qui régissent ces deux mondes, d'où un bouleversement, et les gens seront perturbés, et celui qui n'a pas iman, il va croire à tous les messages qui seront non propagés par Dajjal. Donc, ça c'est un des premiers bouleversements, le fait de lire ou non kafir sur le front de Dajjal. Et enfin, un des signes, on va terminer avec ça, un des signes les plus connus de Ad-Dajjal, c'est les yeux. Alors, on entend des belles et des pas mûres sur les yeux de Dajjal, entre ceux qui disent c'est un cyclope, ou alors qui disent qu'il a un seul œil ou un œil au milieu du front. Il y a au moins 15 hadiths, je ne vais pas vous les citer tous. Là aussi, je vous fais une synthèse de tous ces hadiths. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dajjal est a'war. Et là aussi, ça nous montre l'importance de maîtriser la langue arabe, mais littéraire. A'war, à notre époque, c'est borgne. Mais dans certains hadiths, mais tous les hadiths sont antiques. Il y en a qui disent que Dajjal sera borgne de l'œil droit. Et dans d'autres hadiths, on dit que Dajjal sera borgne de l'œil gauche. Alors comment trouver le juste milieu? Comment coïncider, confondre les deux hadiths? Alors là, il faut remonter à l'étymologie de la langue arabe. Et c'est par cette connaissance de la langue arabe, on peut comprendre les hadiths, que le terme a'war, avec la racine le ayn, le waw et le ra, ça veut dire al-aib, un défaut. C'est-à-dire que donc, on peut comprendre que les deux yeux de Dajjal seront anormaux. Ce n'est pas que l'œil qui est borgne qui sera un œil anormal. L'autre œil également est anormal. Et en grande synthèse, grand résumé, l'œil droit de Dajjal sera l'œil borgne. Et là, ya Rabbi, c'est un œil avec lequel il ne peut pas voir, donc il ne voit pas de l'œil droit. Et de cet œil sera recouverte d'une pellicule de chair. C'est comme si que l'œil ne peut pas, n'est pas apparent. On voit pas le blanc ni le noir de l'œil. C'est comme, c'est pas non plus comme les paupières, la paupière reste fermée. Mais non, c'est au-delà de ça. On parle pas de paupières. Il y a une pellicule de chair qui recouvre l'œil droit de Dajjal. Rita un mil jild, hein, une pellicule. Ainsi on a le hadith précis. À la page 234, donc. الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة. Hadith de Imam Muslim, donc il décrit ce qu'on vient d'expliquer. Tandis que l'œil gauche ne sera pas un œil sain non plus. L'œil gauche de Dajjal sera un œil qui sera excessivement en dehors de, comment on appelle ça, de l'orbite. On dit ça, d'accord. C'est un œil qui sort de l'orbite et c'est un œil khadra qui a un aspect de vert. Pas vers la couleur, mais c'est comme du vert. C'est un œil qui tend vers la couleur du vert, effectivement, mais c'est comme quelque chose de transparent. C'est un œil qui sort donc de son orbite et qui n'est pas normal. Donc c'est un œil qui sort de l'orbite. On va retenir ça et qui s'approche. On ne va pas dire qu'il a les yeux verts, mais qui s'approche de cette couleur et qui a une apparence un peu transparence, on va dire réfléchissante un peu. Donc c'est un œil gauche qui est pas normal non plus, mais avec l'œil gauche, il a la possibilité de voir. Et là aussi, les ulama disent que avec tous les pouvoirs qu'Allah lui a accordés, il ne peut pas changer ni ses signes concernant les yeux, ni le signe concernant ce front qui le trahit, ni l'apparence physique qui permettra à chaque personne qui a entendu parler de lui, donc de reconnaître cette personne. Alors, il y a un hadith, mais ce hadith-là n'est pas authentique. Certains disent que ces signes-là, ces signes physiques, vont apparaître uniquement après que Dajjal proclamera qu'il est Allah, qu'il est Dieu. Mais non, le hadith n'est pas authentique, donc nous restons sur les hadiths connus, que dès le départ, il aura ces signes-là, et on comprend bien qu'il n'aura pas de vie en société avant son apparition en tant que Dajjal. Il y a un dernier point qu'on va terminer, parce qu'après on va parler de par la suite de le hadith de Ajassasa qu'on l'a vu sur une île, les parents de Dajjal, là il y a un ou deux hadiths qui disent que Dajjal, donc, il va naître comme un humain normal avec un papa et une maman. Ce sera là un couple qui pendant 20 ans, je ne sais pas si j'écris 20 ou 30, pendant 20 ou alors 30 années, c'est des parents qui n'auront pas enfanté. Et après cette longue période, ils vont donner naissance à un enfant, et quel enfant, d'accord? Et cet enfant aura la particularité que lorsqu'il va naître, il sera déjà borgne, c'est-à-dire les yeux de Dajjal seront comme ça. Dès sa naissance, quand il sera bébé, Wulida Martoun, et également, lorsqu'il va naître, il sera circoncis. Ce sera deux signes. Pourquoi il sera circoncis? Je ne sais pas moi-même. Wallahu alam. J'ai pas trouvé d'explication. Allah a voulu que les choses soient de la sorte. Donc, il y a même la description physique. Son père sera quelqu'un de très faible physiquement, tandis que sa maman sera quelqu'un de très fort. Les hadiths décrivent même les. Il y a même la description physique des parents de Ad-Dajjal. Donc, après sa naissance, grandit, et là, comment il a atterri cette île, wallahu alam, mais il a cet endroit. Et là également, je pense qu'on a pu clore les objectifs du jour, alhamdoulilah, atteint les objectifs. Là également, on va trouver des gens qui vont faire des commentaires sur le hadith qu'on va voir la prochaine fois, que, oui, comment peut-on affirmer que Dajjal existe déjà, alors que la plupart des endroits, des régions du monde ont été découverts, visités, et avec les satellites infrarouges et tout, on sait pertinemment s'il y a forme de vie tel endroit. Oui, mais les satellites, etc., les découvertes, c'est les yeux des hommes, c'est l'avancée technologique des hommes. Mais quand Allah décide qu'une chose reste cachée, vous voyez l'analogie, si Allah veut qu'un kafir ne puisse pas lire kafara sur le front de quelqu'un qui est un maître de lui, mais Allah, au-delà de ça, a décidé que personne ne pourra découvrir l'endroit où vit Dajjal. Tout comme personne ne pourra découvrir où se cachent Gog et Magog, une population, là on ne parle pas d'un homme. Si on a du mal à accepter que Dajjal est vivant maintenant, alors qu'on va parler de Gog et Magog, ben, qui va nous croire? Une population supérieure à la race humaine, qui existe déjà dans un endroit, on connaît en gros quelle région, mais qui n'est pas accessible. Et que personne ne pourra découvrir, c'est pas une civilisation connue, même avec les caméras infrarouges, les radars, ou je ne sais pas quoi, les satellites, on ne sait pas où sont ces gens. Pourquoi? Parce qu'Allah a décidé que ces populations-là, ces créatures-là, ça fait partie du monde de l'invisible. Et donc, on ne les voit pas pour l'instant. Ils sont là, mais ils sont en retrait. Et quand Allah signifiera à ces créatures que votre mission commence, c'est là qu'ils vont rentrer dans le monde du visible et que les gens vont voir le clash qu'il y a, pas le clash entre les entre les civilisations, mais non, le clash entre les deux mondes, le clash entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Donc, Ad-Dajjal existe, nous avons Iman Yaqin dessus, c'est le hadith qu'on va voir la prochaine fois, que notre Prophète avait eu cette information de la part d'Allah, il avait dit aux Sahaba, et des gens qui venaient de Palestine, qui étaient partis en bateau, qui n'étaient pas musulmans et qui par la suite se sont convertis, ils ont raconté au Prophète leur voyage, et cela a conforté point par point tous les détails que le Prophète avait donné lorsqu'il avait expliqué aux Sahaba que Dajjal est vivant sur cette île, et quelle était sa description et quels étaient les signes qu'il attendait pour apparaître. Donc on a vu, c'est récapitulatif aujourd'hui de ce qu'on avait fait sur Dajjal, on a vu surtout la description physique. Ce qui nous reste à faire, ce qui est au menu, voilà au programme pour la prochaine fois, c'est ce fameux hadith et puis quatre signes qui doivent obligatoirement apparaître avant la venue de Dajjal. Si on a un peu de temps, si on trouve les sources qu'il faut également, on verra quelle est la conception des Nasara, des chrétiens, comment ils voient eux l'antéchrist, et puis les classiques, hein, ce qui est immanquable, c'est d'où viendra Dajjal, qui va suivre Dajjal, bien sûr, et puis quelles seront les choses qu'il va faire, en quoi constitue exactement sa mission, combien de temps il va sur la terre, comment va retourner Isa alayhi salam, comment il va mettre fin au règne de Dajjal, comment il va le tuer. Et voilà, on pourrait dire en gros, et quelques points encore sur Ad-Dajjal. Qu'Allah nous donne tawfiq de comprendre donc ces quelques paroles. Et Alhamdulillah, je disais à notre frère Rachid et à quelqu'un d'autre, juste avant de commencer le programme, donc j'ai eu donc un mail, un potumel comme on dit, d'accord, Alhamdulillah, avec le nom des gagnants, le nom des vainqueurs pour le concours de Hajj. Le tirage au sort avait été effectué il y a quelques jours. Hier encore, on a eu confirmation que les noms sont là, mais on ne les avait pas eu. Et là, il y a, alhamdulillah, 45 minutes, on a eu le nom des 10 gagnants, alhamdulillah. Et donc, je vous annonce que maintenant, les noms sont connus et nous allons procéder de la sorte. Il y aura une cérémonie pour la remise des prix. On rappelle que c'était un concours organisé par le ministère, le même ministère qui gère les concours de Coran. Concours Coran auquel nous participons depuis 25 ans maintenant, voire 30 ans. Et donc cette année, on a eu l'invitation pour participer au concours, ce concours de culture générale, de connaissances générales. Et donc, par la grâce d'Allah, Allah fait en sorte que c'est la première édition. Et en même temps, j'étais à Riyad et j'ai pu rencontrer les responsables au ministère. On a pu faire le bilan du concours. C'était un bilan médiocre, hein. 400 participants, c'est rien du tout. On a des pays comme le Sénégal qui ont plus de, c'est des dizaines de milliers de participants. Mais on a pu convaincre ces gens-là qu'on est une petite population, que c'est nouveau, bref. Et alhamdulillah, on a pu convaincre ces gens-là de nous faire confiance encore une fois et encore et encore, et qu'on garde ce concours. Et normalement, ce concours-là, on l'a eu cette année, on le gardera, inshallah, tout le temps. Tout comme on a eu le concours de Coran il y a 25 ans, on a pu le garder jusqu'à maintenant. Ça, ce sera un acquis pour nos enfants également. Alors, je rappelle également, le principe, c'était un QCM, donc 20 questions. Cette année, c'était sur l'amour que le musulman doit avoir pour les sahaba. Et on a eu 400 participants, il y a eu à peu près 320. À peu près 320 bulletins gagnants, c'est-à-dire il fallait avoir 20 sur 20 pour que le nom soit envoyé au ministère qui, eux, ont effectué le tirage au sort. Et les deux premiers auront une invitation pour le Hajj qui est dans un mois, hein, c'est tout proche. Ils seront reçus par le roi et ils seront hébergés avec les invités du roi Abdallah, Hafidhahullah. Et puis pour les 8, il y aura 10 gagnants pour les 8 autres donc, qui vont suivre. Et il y aura différents cadeaux. Bon, ça c'est du dunya, ordinateur, des trucs comme ça. Mais vraiment, ce qui était intéressant, c'était d'avoir les deux invitations pour le Hajj. Alors bien sûr, il y avait des conditions à respecter. Il y avait l'âge, il y avait différentes conditions. Et également, les deux premiers, hein, bon, on a les noms. Alhamdulillah, c'est des gens que je connais. C'est des gens, c'est des valeurs sûres, comme on peut dire. Maintenant, il faut que les gens-là puissent prouver qu'ils ont le bac. S'ils peuvent nous amener le diplôme de bac, mais ils auront leur billet, leur invitation, autrement le lot reviendra à la troisième personne. Donc alhamdulillah, on a prévu de faire cette réception à la mairie de Saint-Denis, la salle polyvalente, mercredi prochain. Ce sera mercredi 28 août, 28 septembre, inshallah. On le fera, je pense, après la salat al-Isha. Il y aura une petite explication, un petit cadre, une petite causerie sur l'importance de l'amour pour les sahaba, et puis on donnera les noms et chacun recevra les promesses de l'eau, inshallah. Et puis la parole sera donnée à chaque participant. Si quelqu'un veut nous faire remonter quelque chose, s'il y a des remarques, s'il y a des améliorations, c'était une première fois, certainement il y avait des choses qui n'ont pas fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas été correctes, donc ce sera l'occasion également d'échanger. Jazakum Allah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.